Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Rémi Bonnin. Il est référent des Jeunes en Marche du Finistère. Il est également membre du bureau Renaissance Finistère. Voilà, ce matin, on va rester dans le département du Finistère. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'à nous pour commenter l'actualité politique ce matin. Vous m'avez confié tout à l'heure, en préparant l'interview, que c'était votre première radio. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. On va parler effectivement de l'actualité politique ce matin, de la situation politique. Un jeune engagé en politique comme vous, quel regard porte-t-il sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les difficultés à avoir un budget, sur les difficultés à gouverner, à trouver des compromis?
Déjà, comparé à ce que beaucoup de personnes pourraient dire, un jeune n'est pas loin de la politique. Et pense des choses aussi, ça c'est une certitude, et il faut le porter, et il faut le voir aussi sur l'avenir. Un jeune aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va s'engager pour quelque chose qui est proche de chez soi. On a vu que l'engagement des jeunes a changé, au fur et à mesure des années. L'engagement est passé beaucoup plus à des instants, à des soutiens, et non à quelque chose sur le long terme. Aujourd'hui, un jeune, il va voir aussi ce qui l'intéresse, et comme toute personne en France, évidemment. Donc on va parler précarité étudiante, on va parler santé mentale, on va parler écologie, égalité homme-femme, qui sont des sujets qui sont très importants, qui sont contemporains, et c'est les nouvelles générations qui doivent les porter. Moi je me suis principalement engagé en politique parce que je pense qu'il faut que les gens soient heureux. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement populiste comme ça sur le principe.
J'allais vous poser la question, pourquoi un engagement politique?
Moi je me suis engagé très très jeune, je me suis engagé à 16 ans. On pourrait me dire que c'est un âge qui est très jeune et qui est pas le bon. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, chaque personne dans cette nation doit prendre aussi des responsabilités et dire « Ok, on a des sujets qui nous concernent, on a des volontés qui nous sont associées et il faut qu'on les mette en avant. »
Est-ce que vos parents, si ce n'est pas une question indiscrète, étaient politisés? Est-ce que ça vous a influencé quelque part?
Un petit peu comme tout le monde, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, chaque personne a une idée de ce qui se passe en France, à l'international, à l'échelle européenne, mais pas forcément d'engagement politique à proprement parler. Mon père a été premier adjoint d'une petite commune de 800 habitants. Voilà, c'est un engagement qui est surtout de terrain, qui est surtout de proximité et qui est le plus important aujourd'hui.
Pourquoi choisir tel ou tel parti politique? Alors vous avez choisi Renaissance, c'était ce qui correspondait le mieux à votre vision de la société, à votre vision future de la société?
Ouais, alors moi aujourd'hui j'ai une vision à peu près de centre-gauche, même si j'aime pas m'idéologiser. J'ai une vision plutôt de centre-gauche. Le but c'est qu'aujourd'hui ce soit progressiste. Moi j'ai une vision assez progressiste sur les sujets sociaux par exemple, malgré tout très libéral au niveau économique. Et avec aussi une pensée profondément européenne. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui l'Europe a un rôle à jouer dans le monde, mais également par rapport à la France. La France doit être un moteur de l'Europe. La France est aujourd'hui un moteur de l'Europe grâce à notre président de la République. Et pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je ne me voyais pas m'allier, enfin en tout cas aller dans un parti politique qui est extrême, qui prône des choses populistes, qui prône des choses qui font plaisir à la population, et qui dit des choses aussi très extrêmement simplistes. Le monde n'est pas simpliste aujourd'hui, le monde est compliqué. Il faut avoir plusieurs approches, plusieurs idées qui permettent aussi de faire avancer des choses.
On n'est pas dans une société ou dans un monde binaire, c'est beaucoup plus compliqué, hein, c'est ce que vous nous dites. La montée par exemple de partis comme LFI ou comme le Rassemblement National, ça vous interroge, vous, en tant que jeune?
Évidemment. Maintenant aujourd'hui, je trouve ça aussi très très beau que des radios comme la vôtre invite des personnes de ces partis politiques-là. Que ce soit LFI au plus à gauche ou le RN au plus à droite, voire même Reconquête, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est des partis qui se combattent sur le terrain, qui se combattent par les idées et non pas par une forme de rejet. C'est ça qu'il faut pointer. Aujourd'hui, c'est des partis qu'il faut... Ou alors là, sur les idées, il faut pointer leurs difficultés, leurs méthodes qui sont populistes et qui montrent aussi des choses qui ne sont pas réelles dans la société. Aujourd'hui, dire que tout est beau ou que tout est la faute de la Palestine ou que tout est la faute des immigrés, c'est pas une solution. Et ça évoque des choses qui sont pas durables, en fait. Monter les gens les uns contre les autres, ce n'est pas quelque chose d'important. vous me comprendrez, mais n'est pas quelque chose de positif.
Ça peut être dangereux, justement, pour la société, cette fracturation, cette fracture qu'il y a aujourd'hui. On le voit, fracture sociale, fracture politique. Voilà, et ça nous amène aussi, on va commenter tout à l'heure ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais à cette fracture aussi qu'on retrouve dans l'hémicycle, finalement.
Ouais, totalement, totalement. Et je pense que c'est un danger pour notre démocratie, qu'aujourd'hui, il y a une si grosse fracture entre le politique et le citoyen lambda. La politique, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, et je trouve ça très débile de dire à quelqu'un qui ne pourra jamais s'engager en politique. Moi, je me suis engagé en étant au plus bas de l'échelle, comme on pourrait dire, en étant simple militant. Et au fur et à mesure, on montre qu'on a des idées, on montre qu'on a de la volonté, qu'on a envie aussi de montrer des belles choses, des idées qu'on porte finalement, et que c'est très très important de s'engager, parce qu'on prône aussi nos idées. Ouais, je pense qu'il faut rappeler que quelque chose n'est jamais mieux porté que par soi-même, et surtout le rappeler aux femmes. Aux femmes qui aujourd'hui doivent encore plus s'engager en politique, qui ont un rôle à jouer dans le futur et apportent aussi des choses différentes, mais aussi des très très bonnes choses. Il faut vachement les mettre en avant.
Alors on essaie de les mettre en avant ici au micro de Bretagne. Ça, c'est pas toujours évident. On a plus d'hommes que de femmes. Voilà, je lance un appel aussi au micro de la matinale de Bretagne 5. Mesdames qui vous engagez en politique, venez en parler au micro de Bretagne 5. Rémi Bonnin, la situation politique aujourd'hui, j'imagine qu'elle ne vous satisfait pas. Là on en parlait à l'instant de cette fracture au sein même de l'hémicycle, et puis la difficulté à obtenir un budget. On sait que le budget de l'État doit être voté dans les prochains jours, avec le risque qu'il ne le soit pas, qu'il ne soit pas adopté, et le retour d'une forme de chaos. C'est quelque chose qui vous inquiète, là aussi, en tant que citoyen et en tant que jeune?
Évidemment. Après, je pense qu'il y a un motif de satisfaction, qui est ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, premier acte de compromis aujourd'hui depuis un bon nombre d'années. C'est beau parce que le gouvernement Le Cornu 2 n'était pas parti pour des compromis, avait dit on ira au compromis, c'était compliqué, mais aujourd'hui je pense que, en tout cas pour notre camp politique, ce n'est pas un budget qui est parfait, c'est une certitude, c'est quelque chose qui est réel. Malgré tout, on a réussi à faire passer des choses que nous défendons, mais un compromis c'est quelque chose qui doit être totalement positif pour nous. Mmh. Aujourd'hui ça a été positif aussi pour les socialistes qui ont approuvé ce budget-là, ça a été positif aussi pour notre camp. Il faut savoir trouver des compromis, et je pense que chaque personne doit mettre de l'eau dans son vin pour faire avancer l'État. Et c'est une très très bonne chose qu'on ait adopté un budget, enfin la première partie du budget de premier vote pour le budget de la sécurité sociale la semaine dernière. Et on verra ce qui se passera vendredi en commission mixte paritaire. On verra aussi le vote de demain, qui est le troisième vote sur le PLFSS. On verra. Mmh. Maintenant, c'est ce qu'il faut, c'est surtout, moi, mon avis, c'est de pas avoir recours au 49-3. Aujourd'hui, le gouvernement Le Cornu 2 est rentré dans le compromis. Il faut continuer, il faut aller au bout de cet acte-là.
Sébastien Le Cornu l'a dit, il est à la tête d'un gouvernement des plus faibles de la 5e République. Là encore, ce sont les urnes qui ont parlé. Il y a un affaiblissement du camp central, de ce qu'on appelait jadis la majorité présidentielle. Pour vous, cet affaiblissement, il est embêtant, il est gênant, ou au contraire, c'est peut-être le fait de pouvoir repartir justement sur du compromis. On l'a vu avec le Parti Socialiste, entre autres.
Non, je pense qu'une défaite est une défaite, il faut l'avouer. Mais les défaites servent aussi à forger les futures victoires. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut du compromis. Ce n'est pas une défaite à proprement parler, parce qu'on a quand même à peu près une centaine de députés. Ce qu'il faut, c'est maintenant discuter, savoir interagir et proposer de nouvelles idées qui vont aussi permettre d'attirer de nouvelles personnes. Parce qu'aujourd'hui, sur le fond, on a perdu. Mais ce qui va nous permettre aussi de se projeter plus loin et de se dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour que les personnes ne nous fassent plus confiance ? Comment fait-on pour qu'elles nous refassent confiance ? Et les résultats aussi des mesures qu'on aimerait prouver et avancer au niveau de l'État. »
Alors, on va parler tout à l'heure des municipales qui vont en quelque sorte être sans doute un test pour l'élection présidentielle qui arrivera en 2027. C'est encore au loin, encore 17 mois. Donc, est-ce que le problème, comme on l'entend dans certains rangs, à gauche en particulier, à LFI entre autres, est-ce que le problème c'est le président de la République ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron le problème ?
Non, je ne pense pas fondamentalement aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a une note de la France qui se baisse au niveau international. Aujourd'hui, la démission du président et la destitution, comme ce qui est conseillé par LFI par exemple, n'est pas une solution. Je pense qu'il faut le dire, même si aujourd'hui le président a fait quelques erreurs, comme la dissolution de 2024 de ce que nombreux députés nous relayent. C'est une erreur. Malgré tout, aujourd'hui, il ne faut pas l'accabler parce qu'il porte notre nation aussi à l'échelle internationale. Et si le président est destitué, ça va être extrêmement dangereux. Maintenant, les municipales, ça va préparer les élections présidentielles, mais c'est aussi le plus bel acte de démocratie. Il y a à peu près 36 000 communes. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque personne aujourd'hui peut être candidat dans sa mairie. Chaque personne peut faire avancer des choses pour chaque citoyen de ce pays de 68 millions d'habitants. Et c'est le plus bel acte de démocratie. Et je pense qu'il ne faut pas mêler de la politique aussi trop aux élections municipales, parce que la majorité des communes n'a pas ce rôle politique. Mmh. Aujourd'hui, la majorité est sans étiquette et va proposer des choses pour chaque citoyen.
Avec quand même des villes tests, on pense à Lorient, on pense à Brest, on pense à Rennes ici en Bretagne, ou des villes moyennes comme Saint-Brieuc par exemple. Est-ce que ce test, il est important justement pour le camp central, pour finalement voir si il se maintient, ou si au contraire on voit cette poussée, on le voit en Bretagne, hein, du Rassemblement National, ou encore là aussi de LFI?
Je pense que John aura un premier aperçu au niveau des grandes villes de ce que sera 2027, ça c'est une certitude. Maintenant aujourd'hui, en tout cas dans le Finistère, on a 6 députés sur 8, ce qui est dans du camp central, on a 5 Renaissances, ce qui est une victoire. Il faut le dire, c'est quelque chose de très joli. Et on peut voir que nos députés font des belles choses. Alors, on a encore cette semaine Sandrine Lefeur, qui est la commission du développement durable, qui est la présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale, et qui fait avancer des choses aussi par rapport à ça. Mmh. C'est quelque chose qui est très intéressant. Nos députés sont actifs et montrent aussi de belles choses. Il faut le mettre en avant. Maintenant, on a des villes comme Brest, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, qui vont être tests, évidemment. Mmh. On a à peu près 25 ans, en tout cas 4 mandats de la gauche. On verra ce qui se passera en 2027, mais c'est sûr que ça peut être un premier aperçu aussi des résultats qui tomberont en 2027.
On voit François Cuillandre qui rempile finalement pour un nouveau mandat, avec une gauche assez divisée encore aujourd'hui, même si des alliances se font. C'est un petit peu le cas aussi à droite. Hein. Est-ce que tout ça peut profiter au camp central?
Alors aujourd'hui, nous on est encore en pleine négociation, hein. Les villes ne sont pas encore actées au niveau de Renaissance. On a plusieurs candidats, donc on sait à peu près où on va. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a des camps politiques qui seront majoritairement représentés. On a le RN qui monte en puissance aussi dans le Finistère, comme dans toute la Bretagne, comme vous l'avez sûrement vu. On a LFI aussi qui monte grandement dans les villes, et qui est vraiment très dangereux comme le RN. Vraiment, les extrêmes, il faut faire très très attention au niveau des villes. Donc aujourd'hui, ça peut nous bénéficier. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas mettre que de la politique politicienne à l'intérieur de tout ça. Il faut arrêter cette bataille de parti. Il faut avancer des idées. Parce que pour moi, un parti n'a pas une attache à des valeurs, malgré ce qu'on pourrait penser. Un parti, c'est un rassemblement de personnes qui pensent à peu près la même chose, pour faire avancer le bien commun. Et aujourd'hui, les personnes qui s'engagent dans les municipales servent au bien commun. C'est la principale chose que font ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'elles sont élues. C'est très très important de le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, chaque personne qui s'engage pendant les municipales va porter les idées de personnes qui sont citoyens, et donc c'est très très important que toutes les idées soient mises en valeur. Donc évidemment que l'avantage des municipales, c'est que chaque parti peut être représenté dans un conseil, et donc il y a une diversité d'idées qui peut aussi mener à, encore une fois, des compromis, mais aussi à des idées qui vont se confronter, et donc là c'est aussi intéressant d'avoir du débat et de comprendre pourquoi.
Alors on entend beaucoup les maires s'exprimer, alors ils ne sont pas toujours contents parce que c'est compliqué aujourd'hui d'un point de vue budgétaire, parfois administratif aussi, ils sont très accablés. Et pourtant aujourd'hui le maire reste quand même l'élément essentiel, le pilier essentiel de la République, on le voit, que ce soit dans les villes, alors même si le maire est peut-être un peu moins accessible dans certaines villes, mais dans les campagnes souvent on va voir le maire, parfois même on le tutoie, on lui demande, il y a une forme de démocratie directe. Et il faut préserver justement ce côté démocratie directe. À un moment où les Français ont beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations.
Absolument. Aujourd'hui, c'est indéniable que le maire est la première personne politique de chaque village. C'est même pas de la politique, sincèrement. C'est des gestes citoyens. Aujourd'hui, c'est des...
Souvent, d'ailleurs, les maires sont sans étiquette. Hein. On ne s'occupe pas de savoir si le maire est à gauche ou à droite. On regarde ce qu'il va faire, ou la personne, en l'occurrence.
Exactement. Et aujourd'hui, la mairie, c'est la plus belle chose démocratique, je trouve. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas enlever à la démocratie. Parce que chaque personne se sent représentée politiquement par son maire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à affirmer. Et il faut continuer aussi à se battre pour une démocratie qui soit plus juste et plus égalitaire. Ça, c'est une certitude.
Avec des interrogations, les Françaises, les Français, les Bretons, les Bretonnes aujourd'hui s'interrogent sur leur pouvoir d'achat, sur comment payer leurs factures d'énergie par exemple, ou encore sur le logement qui est une question qui revient régulièrement au centre des discussions ici en Bretagne. Et puis il y a un autre sujet, j'avais envie de vous entendre là-dessus, c'est l'agriculture. On le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire qui touche l'agriculture. On voit il y a un fossé qui se creuse entre l'État et les agriculteurs, une grande colère aussi. Il va falloir renouer le dialogue avec le monde agricole, il va falloir écouter les doléances, et puis il va falloir surveiller le Mercosur aussi, voilà, qui doit être signé dans les jours qui viennent, cette semaine en l'occurrence.
Alors tout d'abord sur le Mercosur, la France s'est toujours opposée, la France fait toujours entre guillemets du lobbying à l'échelle européenne et internationale pour dire que cet accord est très mauvais. Notre président est encore, c'est la semaine dernière, en train de trouver des personnes avec qui on pourrait voter contre ce Mercosur à l'échelle européenne. C'est un danger, évidemment.
C'est pas évident, hein, parce que beaucoup de pays européens veulent adhérer finalement, ouais, au Mercosur, y compris, on l'a entendu, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui veut absolument signer ce Mercosur. Comment s'opposer aux autres pays ?
Bah, déjà, c'est très compliqué d'un point de vue politique, évidemment. Mais c'est vrai que là, il faut absolument être très très fort sur ce sujet-là, parce que déjà d'une, ça permet que la France ait une place importante au sein de l'Union européenne, de une. Parce que la France a toujours porté des choses plutôt écologistes, plutôt progressistes à l'échelle européenne, et ça, il faut le continuer. Parce qu'aujourd'hui, ça affaiblirait trop nos agriculteurs et nos petits commerces, en fait. Mmh. Il y aurait trop une incidence. On casserait notre marché, et ça serait beaucoup trop dangereux. Maintenant, par rapport à la DNC la semaine dernière et aux agriculteurs, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre leur colère. Il y a un réel problème de l'agriculture en France, sous par rapport aujourd'hui au taux de suicide. Hein. On le voit, nombreux agriculteurs sont vraiment dans une situation extrêmement précaire. Et moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui me disent qu'ils n'ont pas envie d'être, à titre individuel, propriétaire de leur exploitation, parce qu'au niveau administratif, c'est beaucoup trop compliqué. Parce qu'au niveau de la prise de position, c'est beaucoup trop compliqué au niveau de la population. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de souveraineté pour le futur qui est indéniable. Ça, c'est une certitude.
Avec le danger de voir beaucoup de petites exploitations agricoles disparaître ou être revendues, et de voir apparaître des formes de multinationales, peut-être achetées par des groupes agroalimentaires, pardon, je vais y arriver. Voilà, on peut imaginer ça avec un autre danger, justement, peut-être la porte ouverte à d'autres dérives. Le danger de la mort de l'agriculture traditionnelle, c'est peut-être ça, c'est la porte ouverte à une autre forme d'agriculture.
Ouais, je pense qu'il faut quand même pas aller si loin. Je pense qu'on aura toujours une forme d'agriculture. Malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut perdre de nombreuses exploitations. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les syndicats agricoles prônent un meilleur remboursement pour l'abattage de leurs vaches, dû à la DNC. Aujourd'hui, ils tablent sur 3 500 € par vache, alors qu'aujourd'hui, l'État leur rembourse à peu près 2 300 à 2 500 € de souvenirs. Donc c'est assez compliqué. Évidemment qu'on a un sujet qui est extrêmement tendancieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut encourager chaque agriculteur aussi à s'engager et à dire ce qui ne va pas. Malgré tout, on a des prises de position qui sont assez extrêmes. Et aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, les scientifiques nous disent très clairement que l'abattage total est la meilleure des solutions. Peut-être qu'on se rendra compte dans le futur que c'était pas vrai. Peut-être qu'on se rendra compte aussi que c'est vrai. Mmh. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est la meilleure solution d'un point de vue scientifique, évidemment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est assurer aussi une pérennité du système. Et donc cette pérennité, elle passe aussi par un meilleur remboursement, je le pense, par un meilleur accompagnement, et par aussi quelque chose de beaucoup plus intéressant, de la proximité. Mmh. Il faut de la proximité, il faut qu'aujourd'hui les personnes se sentent comprises par le milieu politique, il faut que les personnes se sentent aussi comprises par la population.
La ministre de l'Agriculture a été beaucoup pointée par les agriculteurs, par quelques syndicats agricoles, en disant voilà, il y a un manque d'humanité quand on perd des vaches, un troupeau de vaches. Bien, il y a un attachement évidemment aux bêtes, comme l'on dit, un attachement à ces animaux qu'on voit grandir. Et là, on oublie le côté humain, le côté détresse humaine. Est-ce que là aussi, il faut qu'il y ait un travail avec les différents intervenants, même au niveau du gouvernement, pour accompagner les agriculteurs, ne pas les laisser seuls quand l'exploitation est vide?
Ouais, je pense que c'est un sujet de grande cause nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le porter en avant et vraiment en discuter. Je pense que ça serait hyper intéressant qu'aujourd'hui, le président de la République lancent cette grande cause nationale et disent « je vais me déplacer dans la France et on va discuter ». Il reste un an et demi avant que le président s'écarte, mais il faut aussi utiliser ce temps pour des nouvelles choses et pour le futur. La culture en fait partie, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui ça en va de la souveraineté de la France. Mmh. Aujourd'hui on ne peut pas faire sans manger, ces personnes nourrissent la plupart des individus, donc on a besoin d'eux, il faut mieux les accompagner, il faut mieux les aider, il faut aussi leur dire qu'on est derrière eux et qu'il faut absolument qu'ils discutent et qu'on soit dans le débat. Ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui on voit telle la coordination rurale qui, je pense, ne va pas assez dans le débat. Je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et discute, c'est extrêmement important.
Là encore, du compromis, de la discussion.
Oui, c'est le plus important aujourd'hui. On a perdu un petit peu ça, il ne faut pas le perdre. Mmh. C'est la principale chose de démocratie. Aujourd'hui, si on ne veut pas une guerre civile, je pense qu'il faut que chacun parle. Il faut que chacun dise ce qui ne va pas, ce qui le touche personnellement, et que chacun trouve des solutions. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, comme j'expliquais tout à l'heure avec le système politique, mais également avec ce système-là. Il faut que chacun se mette autour de la table, il faut que, je pense, les politiques se disent « bah ok, on a peut-être fait des erreurs, peut-être qu'on les a faites, mais maintenant, comment on fait pour les régler ? Comment on fait pour aller vers l'avant et faire mieux ? Et je pense que chacun doit jouer un rôle à l'intérieur.
On va parler du pouvoir d'achat et de se loger ici aussi en Bretagne. Alors, pas seulement en Bretagne, mais en l'occurrence. Il y a une grande inquiétude aujourd'hui, une grande inquiétude sur l'avenir. Beaucoup de Françaises, de Français se tournent effectivement vers des partis comme soit les filles, soit le Rassemblement National, en disant, voilà, eux vont pouvoir nous aider. On n'a pas le sentiment qu'on a été aidé jusqu'à présent. Là aussi, il faut alerter, là aussi, il faut discuter, là aussi, il faut comprendre et surtout trouver des solutions.
Exactement, vous l'avez très bien rappelé. Je pense qu'il faut écouter ces personnes-là, parce que s'ils ont ce ressenti-là, c'est aussi qu'on a fauté. Peut-être qu'on a fauté à un certain moment et à un certain nombre de moments, mais il faut les écouter, puis il faut leur dire, bah d'accord, bah alors qu'est-ce qu'on fait maintenant pour changer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ? Et je pense que passer dans des extrémismes n'est pas la solution. Mmh. Aujourd'hui, ça va nous mener à perte. Et je le pense fondamentalement, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale, que ce soit la dimension nationale ou alors se tourner trop vers l'extérieur, faut faire très attention. Des deux côtés des extrêmes, évidemment. Faut dire aux personnes qu'on peut les écouter, qu'il faut les écouter, et faut retrouver la démocratie, comme j'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est qu'aujourd'hui, chaque personne se sente compris en France. Se sentent compris et se sentent finalement, ok, les politiques sont pas détachées des citoyens, comprennent les solutions, comprennent les problèmes et disent, bon, d'accord, on va se mettre tous ensemble autour de la table, discuter et faire pour.
Alors là, justement, il y a plusieurs dogmes qui s'affrontent. On entend beaucoup à droite la question des impôts, d'une politique plus libérale, moins d'assistanat. D'un autre côté, il y a une demande aussi, de la population, de l'opinion publique, pour avoir à la fois moins d'assistanat, mais quand même conserver le modèle social, le modèle économique français. Comment arriver à faire le point d'équilibre, justement, entre ces deux, ces deux oppositions?
Moi, je crois fondamentalement pas au... j'ai oublié le mot que vous avez...
L'assistanat.
Voilà. Je crois fondamentalement pas à ça. Parce que pour moi, l'assistanat, c'est extrêmement péjoratif. Ça cible une partie de la population qui est en difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque personne n'est pas dans une difficulté qu'il veut rester. Ça, c'est une certitude. Pour moi, l'assistanat, il faut faire très attention avec ce terme-là qui est beaucoup répété chez les LR, par exemple. Et il faut vraiment prendre du recul. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout redonner du pouvoir au travail. Il faut dire à chaque personne qui travaille qu'il a des droits, qu'il faut qu'il ait plus de droits, qu'il faut qu'il soit mieux mis en avant dans le système politique également, et qu'il ait des meilleures solutions.
Avec néanmoins beaucoup de difficultés, on le voit au niveau économique, on voit certaines chaînes de magasins qui ferment, on voit des licenciements, on pense à Brandt qui dépose le bilan. Là aussi, il va falloir... Pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu cru, un peu dur, un peu froid, mais recaser ces personnes, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va leur retrouver de l'emploi? Alors, ce sont des gens qui ont passé leur vie dans une entreprise. Alors voilà, je prends le cas de Brandt, mais il y en a d'autres.
C'est sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi entamer un très gros plan, et ça sera une des mesures de 2027. En tout cas, je pense que pour chaque mouvement politique, c'est une mesure de réindustrialisation du système, une mesure de comment on fait pour que notre industrie marche, perdure et soit pérenne à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, la France a quand même un très gros poids dans tout ce qui est innovation. Aujourd'hui, on a des secteurs qui sont extrêmement puissants, extrêmement importants à l'échelle internationale, et ça, il faut qu'on le garde.
Si vous me permettez, je prends la métaphore sportive, vous êtes rugbyman, je le dis pour nos auditeurs, il faut transformer l'essai aujourd'hui, il faut aussi tenir tête à des pays comme la Chine. On a vu le président de la République avoir un discours très offensif, hein, finalement, et très sans détour vis-à-vis de la Chine. Il faut se préserver, il faut avoir une forme de protectionnisme, comme le font les États-Unis,
Non, je pense pas fondamentalement qu'il faut aujourd'hui s'enfermer dans un système qui est le nôtre. Il faut garder une ouverture, surtout à l'échelle européenne. Je pense que l'échelle européenne doit créer aussi cette troisième force et doit monter aussi en grade. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'affaiblissement des États-Unis qui, à l'échelle internationale, tourbillonne un petit peu. Mm-hmm. Essaye aujourd'hui de jouer sur tous les tableaux. Il faut qu'ils fassent extrêmement attention par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est là où l'Europe a, elle, un lien et a un rôle à jouer dans le futur.
Le rôle, il est aussi international, on l'aura compris, géopolitique, avec un bouleversement géopolitique, avec une guerre à nos portes, cette guerre d'Ukraine qui n'en finit pas, avec une Russie qui souffle le chaud et le froid, les États-Unis qui tentent, à la manière Donald Trump, de mettre fin à la guerre. Et puis on a aussi le conflit au Proche-Orient, on en dira un mot tout à l'heure avec ce qui s'est passé en Australie. Là aussi, il faut que l'Europe pèse plus, il faut que l'Europe, il y ait une forme d'Europe de la défense, que l'Europe monte ses dents finalement.
Oui, c'est un peu ça. Bah, c'est aussi le rôle aussi des réunions aujourd'hui, qui sont avec les Allemands, les Anglais, les Ukrainiens, les Français, où il faut absolument retrouver cette défense, dire à la population qu'il ne faut pas s'inquiéter non plus, il ne faut pas tomber dans cette forme de peur.
Il y a la peur de la guerre, on l'entend, le mot a été employé, y compris par un général, le général Fabien Mandon, totalement, pour ne pas le citer. Il y a cette peur aujourd'hui.
Il y a cette peur, mais aujourd'hui, je pense que la France est beaucoup trop importante et il ne faut pas tomber dans cette forme de peur. De une, je voudrais réitérer mon engagement au sein du service national volontaire qui a prôné le président de la République, qui est extrêmement intéressant et il faut absolument le mettre en valeur, mais malgré que notre camp aujourd'hui et les Jeunes En Marche étaient plutôt positionnés sur le service national universel.
C'est une bonne chose, le retour du service militaire, comme l'on dit.
Aujourd'hui, l'échelle volontaire est très très intéressante. Mmh. L'obligation, je pense que ça ne réglera pas beaucoup de soucis, malgré ce que certaines personnes pourraient dire. Et je pense que cette montée vers la guerre, il faut faire aussi très attention à ne pas provoquer la guerre finalement, pas provoquer l'adversaire. Ce qu'il faut rappeler également. Maintenant, la France a un rôle à jouer, par exemple par rapport à céder des territoires. Aujourd'hui, l'Ukraine ne doit pas céder des territoires, c'est extrêmement important. La région du Donbass est concernée aujourd'hui par rapport aux négociations. Les Américains veulent que l'Ukraine cède, mais je pense que l'Europe doit être forte et doit dire que non, on ne cédera pas parce que c'est important pour la souveraineté de ce pays.
On voit néanmoins la prédominance américaine, on a l'impression que l'Europe est un petit peu mise sur la touche. Là aussi, il faut montrer les dents, il faut dire on est là.
Oui, c'est un peu ça, vous l'avez très bien dit. Il faut montrer un peu les dents, il faut dire aussi qu'on est présent, qu'on va aider chaque population et qu'aujourd'hui, chacun a un rôle à jouer. Maintenant, il ne faut pas se mêler non plus de ce qui ne nous regarde pas, entre guillemets. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas qu'on se prenne pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut que la France joue un rôle dans le futur. Donc pour ça, il faut qu'on s'impose dans les discussions. Il faut aussi qu'on dise, on est capable de trouver des solutions. On se met autour de la table et on trouve des solutions. Il n'y a pas que Trump qui peut trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que du commerce. On l'a vu avec les accords avec l'Ukraine il y a quelques mois. C'est extrêmement dangereux et ce n'est pas le but d'un bon compromis et d'un bon cessez-le-feu et d'un bon traité de paix par la suite. Donc il faut faire très très attention à ces méthodes américaines.
Il nous reste une petite poignée de secondes. J'avais envie de vous entendre aussi sur le conflit au Moyen-Orient, la guerre toujours présente entre Israël et la Palestine et ses répercussions et cette horreur qui est survenu hier à Sydney en Australie avec ces tireurs qui ont visé la foule, 16 morts pour le dernier bilan. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Déjà, je pense qu'il faut qu'on apporte tout notre soutien à la communauté juive de France.
Je sais s'il y a un Français parmi les morts. Hein.
Oui, en plus, oui. Non, mais c'est vraiment important de réitérer cet engagement-là qui est vraiment l'attachement à cette communauté-là également. Malgré tout, par rapport au conflit au Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est une situation qui est très très ambivalente parce que faut pas faire des raccourcis. La communauté juive en France n'est pas le gouvernement de Netanyahou. Il faut faire extrêmement attention. Il faut pas aller trop trop rapide. La situation est même plus complexe que cela. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir ce rôle-là en tant que citoyen de dire non, ce n'est pas ça. La situation est extrêmement compliquée. Il faut citer qu'il y a des massacres et qu'aujourd'hui, il faut absolument s'engager dans le long terme sur cette partie-là.
Voilà, le long terme, toujours et encore. Rémi Bonnard, référent des jeunes En Marche du Finistère, membre du bureau Renaissance du Finistère, était avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique et plus encore. Merci infiniment d'avoir été
avec nous.
Et vous voyez, ça s'est très bien passé cette première radio.
Parfait.
Très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.